parcours, l'essentiel de mon parcours diplomatique se passe dans la zone Afrique du Nord, Moyen-Orient, c'est-à-dire en pays musulman, et c'est devenu un peu ma spécialité. Avant même d'entrer au Quai d'Orsay, les religions m'intéressaient beaucoup. Je tiens d'une éducation familiale, je tiens cela d'un état d'esprit personnel, et je le tiens aussi de l'intérêt que j'ai eu très jeune pour le monde musulman, parce que je crois que finalement j'ai été très jeune attiré par les frontières qui sont lignes de conflit ou lignes de rencontre. Et en posant la question comme ça, vous devinez peut-être dans quelle direction penche mon esprit. Et donc c'est ça qui m'intéresse, parce qu'au fond c'est ça le cœur de la diplomatie. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de faire de la diplomatie dans un monde culturel qui n'est pas exactement le nôtre que de le faire chez le voisin d'à côté qui nous ressemble beaucoup, ce qui n'est pas une critique à son égard, hein, mais qui est peut-être moins stimulant sur le plan intellectuel. Donc j'ai été en poste en Arabie Saoudite, j'ai été en poste au consulat général à Jérusalem, qui, comme vous le savez peut-être, est notre ambassade en quelque sorte auprès des Palestiniens. J'étais numéro 2 de l'ambassade en Iran, j'ai été consul général à Istanbul, ambassadeur au Qatar. J'ai été à Paris rédacteur en charge de la question israélo-palestinienne, j'ai été directeur adjoint d'Afrique du Nord Moyen-Orient. Donc c'est 90% de ma carrière. Les questions migratoires étant une spécialité thématique qui s'ajoute à cette spécialité géographique. Alors, je voudrais d'abord partir d'un paradoxe qui est que beaucoup de gens sont étonnés et marquent leur surprise quand je les rencontre, dire comment la République française, laïque, tellement séparée, j'allais dire presque jusqu'à la pathologie quelquefois, du fait religieux, a un conseiller pour les affaires religieuses, c'est-à-dire un haut fonctionnaire de sa diplomatie, un diplomate de haut rang qui s'occupe de ce sujet. Le paradoxe va plus loin, c'est que j'appartiens à un groupe d'une quinzaine de diplomates, comment dire, en diplomatie like-minded, qui travaillent sur diplomatie et religion. Je n'ai pas d'homologue. La France est le seul pays au monde qui a un diplomate de haut rang pour traiter le fait religieux dans sa globalité. Il y a des pays qui abordent le fait religieux par la question de la liberté de religion ou de conviction, ce qui est tout à fait important, mais qui en font finalement un chapitre de la diplomatie des droits de l'homme. Hein, il pourrait avoir un monsieur liberté syndicale, un monsieur LGBT, un monsieur je ne sais pas quoi, une dame d'ailleurs. Mais il n'aborde pas le fait religieux dans sa globalité. Vous avez des pays qui abordent le fait religieux par le soutien diplomatique à une confession. Par exemple, mon collègue grec me dit « je suis ton homologue », pas du tout. Il est simplement le diplomate de haut rang qui est chargé d'aider les relations extérieures de l'Église orthodoxe grecque. Et dans les pays musulmans, la diplomatie religieuse est une diplomatie explicitement islamique. Donc voilà, je n'ai pas de vrai homologue. Au fond, quand je réfléchis bien, je pense que c'est finalement assez logique. Je pense que c'est précisément la laïcité qui me permet de m'investir sur ce poste, parce que la laïcité est une séparation du politique et du religieux. Avant même la loi de 1905, on trouvait cette notion, je prétends qu'on la trouve dans l'Évangile, avec le fameux « rendez à César ce qui est à César » et « à Dieu ce qui est à Dieu ». On le trouve dans toute une pensée chrétienne, même si elle est démentie très souvent dans les faits historiques. On la trouve chez Spinoza et on la trouve juridiquement dans la loi de 1905. Alors, un petit mot peut-être pour vous exprimer la conception de la laïcité de Jean Madame qui est la nôtre, qui est d'Orsay, en tout cas celle que j'essaie de faire prévaloir, qui est finalement la seule qui soit possible, je pense, d'abord parce qu'elle est conforme à la loi de 1905 et surtout à la jurisprudence, comme souvent le droit et le texte fondateur de droit est une chose, mais la manière dont il est mis en œuvre. Et dans le cas de la laïcité, c'est extrêmement important. Vous savez que la jurisprudence depuis 100 ans et quelques est une jurisprudence de liberté. qui a veillé à rappeler que la liberté de religion et de conviction est la règle, que comme toute liberté fondamentale, elle peut être réduite pour des considérations d'ordre public, mais que la limitation est l'exception et que la limitation est elle-même limitée. C'est-à-dire que la limitation est soumise au contrôle du juge et doit être justifiée par une nécessité, doit être mise en œuvre dans la proportionnalité, ne doit pas être discriminatoire. Et je vous renvoie pour ça à la décision du Conseil d'État sur le Burkini il y a 2 ans, et qui est une parfaite illustration de cette conception. Dès lors, la laïcité ne signifie pas d'abord une idéologie. L'Observatoire de la laïcité auquel j'appartiens le dit et le répète, la laïcité n'est pas une idéologie, la laïcité n'est pas une religion, la laïcité n'est pas une opinion. C'est la liberté qui vous est donnée à tous d'avoir librement votre opinion. Et qui fait que M. Lemoyer protestant et peut-être un voisin athée et troisième musulman, comme ça, pourront, en tant que citoyens, bâtir une société politique qui s'appelle la nation. Donc pour moi, la laïcité, c'est le principe juridique qui met en œuvre, sur le terrain des convictions, les valeurs de la République. Liberté, égalité, fraternité. Donc je dis souvent, quand je fais des conférences sur le sujet, parce que j'aime bien provoquer un peu l'intérêt d'attention, je dis à mes auditeurs, la laïcité n'est pas une valeur de la République. Les valeurs de la République, c'est liberté, égalité, fraternité. Et la laïcité est le principe juridique qui, sur le terrain des convictions, met en œuvre ces valeurs.
C'est très d'accord, je me permets, avec Jean-Louis Piancourt, que nous avons rencontré la semaine dernière, c'est exactement la même chose.
Et donc c'est très important parce que la laïcité est mal comprise à l'étranger, parce que trop souvent, elle est vécue comme l'idéologie de la République française. Alors quand vous avez, je n'invente pas, j'ai été témoin de la scène, discussion d'un texte sur la liberté de religion ou de conviction aux Nations Unies, vous avez le délégué français qui dit mais la France est d'accord, mais naturellement dans le cadre de la laïcité. Et bien, l'Arabie Saoudite dit mais l'Arabie Saoudite est d'accord, mais naturellement dans le cadre de la charia. Je n'ai pas besoin de vous expliquer l'effet absolument calamiteux qu'une telle approche produit. Voilà. Donc, si la laïcité est bien comprise comme je le décris, et encore une fois, ça ne peut pas être autrement, parce que si c'était autrement, nous serions en contradiction avec nos engagements internationaux. On vous invite à reprendre les grands textes internationaux, article 2, article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous voyez le pacte international sur les droits civils et politiques de 1966. Vous voyez la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme de 1952. Vous y verrez que la liberté de religion ou de conviction, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire. Et si l'on croit, de pratiquer sa religion, seul ou en public, en privé ou collectivement, seul ou collectivement, en privé ou en public, par les rites, par le culte, par l'enseignement. Quand on entend en France, la religion est une affaire privée, je suis d'accord, qui doit être limitée à l'espace privé, je ne suis plus d'accord. Et c'est extrêmement important, avec des implications très concrètes, dans la vie de l'entreprise, dans la vie des services publics et dans l'espace public c'est le service public qui est laïque, ce n'est pas l'espace public. La société peut être sécularisée, comme c'est largement le cas dans notre pays, mais la société n'est pas laïque, c'est un non-sens, c'est l'État qui est laïque. Et donc, dans ces conditions, il n'y a pas d'objection à ce que les pouvoirs publics regardent le fait religieux. Comme je dis souvent aux ambassadeurs qui partent en poste lors de leur réunion d'instruction, je leur dis la religion c'est comme le football, vous aimez ou vous n'aimez pas. Mais c'est un fait de société. Moi, je dis franchement, le football m'emmerde. Pardonnez-moi pour la vulgarité de mon propos, c'est clair. Mais quand j'étais ambassadeur au Qatar, je me suis passionné pour le Paris Saint-Germain. Ce n'est pas le choix. Et, Donc je regardais les matchs, je lisais les commentaires. Et quand l'émir du Qatar me disait, monsieur l'ambassadeur, vous avez vu le coup franc de Sarkarani l'autre jour, j'avais entendu, je savais de quoi nous parlions. Donc, l'État est religieusement neutre, les fonctionnaires sont religieusement neutres en tant qu'ils sont fonctionnaires, ils sont libres de leurs opinions en tant que citoyens, mais l'État ne peut pas faire abstraction ou ignorer un phénomène religieux, un phénomène aussi important que le fait religieux. Voilà, ça c'était l'introduction que je voulais faire pour lever dès le début une possible toute hypothèse de possible contradiction qui aurait pu surgir dans vos esprits. Donc maintenant, la question que je voudrais poser, c'est pourquoi on s'intéresse aux faits religieux quand on est diplomate. Et deuxièmement, comment nous le faisons, tout simplement. Quand je pose la question, sur la première partie, pourquoi on s'intéresse aux faits religieux dans la diplomatie, j'ai envie de poser la question d'une autre manière, qui est, y a-t-il un retour du fait religieux? C'est l'idée à la mode. C'est l'idée à la mode, et c'est une idée que je ne récuse pas totalement, mais assez largement. Alors, on va d'abord regarder tout ce qui plaide pour le retour du religieux. Vous avez en tête sans doute la phrase de Malraux, le 21e siècle sera religieux ou il ne sera pas. Ce qui me paraît intéressant, ce n'est pas tellement ce que disait Malraux, qui, avec tout le respect que je lui dois, fasse un peu une porte ouverte, me semble-t-il. Ce qui me paraît intéressant, c'est l'époque à laquelle il le disait. Donc une époque à laquelle nous avions, nous, les Occidentaux, en particulier les Français, le sentiment que la religion était un reste du passé, que l'on regardait avec sympathie, hostilité, amusement, et que l'on était en train de dépasser ces réalités. Nous, Français, nous sommes très profondément ancrés dans cette idée. C'est nous qui avons inventé le positivisme, c'est nous qui avons inventé cette idéologie du 19e siècle, de la modernité. On a pensé que la modernité post-moderne, le fond, c'est finalement pareil, avec le positivisme d'Auguste Comte et ce que Flaubert appelait les esprits forts. Si on regarde dernière décennie, en ayant l'esprit que 40 ou 50 ans, c'est finalement court dans l'histoire du monde. Moi, je voudrais appeler votre attention sur quelques éléments qui me paraissent des éléments très significatifs. Le premier, c'est octobre 1978, c'est l'élection de Jean-Paul II. De Jean-Paul II, qui n'était pas attendu, non seulement parce que on n'attendait pas un pape non italien, c'était quelque chose d'extrêmement nouveau, mais que le pape non italien qu'on est allé chercher, enfin que les cardinaux sont allés chercher, était un pape polonais, c'est-à-dire un pape venu de l'Est, d'un pays où l'Église était persécutée, et vous vous souvenez de cette... les images sont très belles parce que c'était en fin de journée, au mois d'octobre, à Rome, la couleur dorée de beau jour romain. Jean-Paul II disant « N'ayez pas peur », ce cri qui a parcouru le monde. Quelques jours plus tard, le nouveau pape, interrogé par un journaliste sur le thème « Qu'allez-vous faire pour l'église du silence ?», a eu cette réponse absolument majestueuse. Il a dit « Il n'y a plus d'église du silence, elle parle désormais par la voix du pape ». 10 ans plus tard, c'est l'ébranlement du mur de Berlin, la chute du bloc soviétique, et même les plus anticléricaux des historiens ne peuvent pas décrire ce qui s'est passé sans mentionner le rôle fondamental de Jean-Paul II. Février 1979, on n'est pas loin, de l'élection de Jean-Paul II, c'est la révolution iranienne. La révolution iranienne avec la mise en œuvre pour la première fois d'une république islamique, il y a eu des précédents, notamment la Mauritanie. Le poids de l'Iran était sans commune mesure avec ces autres pays. Et on a donc en Iran une révolution très ambiguë au départ, mais qui est très, très vite raflée, en quelque sorte, par les islamistes, avec le principe que trois conséquences pratiques considérables, qui sont le principe que l'État peut être islamique, la République islamique, ce qui va à contre-courant de ce que nous, occidentaux, travaillions dans nos têtes depuis des décennies. Hein. Deuxièmement, qui élabore la théorie du velayat et fakhri, hein, savoir que le pouvoir suprême est confié à. On dit, c'est difficile en français parce que la langue ne restitue pas tout à fait l'idée, c'est le pouvoir du jurisconsulte, c'est-à-dire le pouvoir du savant religieux, qui se nomme Khomeini, qui se nomme aujourd'hui le guide de la République, Khomeini. Cette république, cette révolution islamique met aussi en place ce slogan qui a fait des ravages dans le monde, l'islam est la solution. C'est tellement simple, c'est tellement simplificateur, c'est tellement éloigné des réalités, parce que c'est sur une religion, sur la solution au réchauffement climatique, au déficit de la sécurité sociale, à la question du manque de formation professionnelle des jeunes et d'autres sujets de ce type. Et puis la révolution islamique, quatrième conséquence, je crois que c'est 3, il y en a 4, se propose d'exporter sa révolution. Et ça déclenche le feu dans l'ensemble du monde islamique, y compris, j'appelle votre attention là-dessus, dans le monde sunnite. Parce qu'aujourd'hui, il est de bon ton de dire finalement tout se résume dans l'affrontement sunnite-chiite, et j'en crois avoir trouvé la clé. Et je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. L'Arabie Saoudite, ou ce qui l'a précédé, et l'Iran, ou ce qui le précédait, sont en conflit depuis 3000 ans, bien avant l'islam. Et c'est la révolution islamique dans le monde chiite qui a suscité l'islam, donné un élan. Il n'a pas inventé, mais il a donné un élan très fort à l'islam politique, y compris dans le monde sunnite. J'avance un petit peu, décembre 1979, c'est l'invasion soviétique en Afghanistan. Et en réaction, la résistance du peuple afghan qui très très vite devient une résistance religieuse avec l'apparition des Moudjahidines et la politique de soutien à ces derniers. On a discuté très très longtemps pour savoir si la politique de l'Occident en soutien à ces Moudjahidines était pertinente ou pas, et si au contraire nous n'avons pas fabriqué le démon qui nous soutient ou déstabilise le monde. Et puis en novembre 1980, l'élection de Ronald Reagan, avec le retour du conservatisme américain après les décennies, les années 60, 70, qui sont grosso modo les décennies libertariennes, mai 68. Et dans l'élection de Ronald Reagan, on découvre, et des gens comme Jacqueline Crapin ou Guy Sormand l'ont très bien analysé, l'émergence de ce qu'on peut appeler aujourd'hui la droite conservatrice américaine, de sa dimension religieuse, avec la grande expansion des églises évangéliques. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure pour vous dire que je pense que ce phénomène est un des phénomènes les plus déstabilisateurs du monde aujourd'hui, pas seulement aux États-Unis. Mais vous voyez ce que ça donne aujourd'hui avec certaines positions du président Trump par exemple sur Jérusalem, qui sont des positions. Lisez le discours de Mike Pence quand il est allé à Jérusalem en fin janvier février, c'est assez hallucinant, c'est un discours biblique. Donc voilà, donc on peut dire avec ces quatre événements et toutes les conséquences que nous avons un retour du religieux. On peut aussi charger encore l'argumentaire en évoquant, j'entre pas dans le détail, la montée du sentiment religieux en Chine communiste, qui fait dire à certains que la Chine sera dans les années 2030 le premier pays chrétien du monde en population, avec là encore le phénomène évangélique et dans sa floraison très difficile à suivre. L'arrivée des nationaux religieux en Inde, puisqu'en Inde, nous avons un gouvernement qui est nationaliste religieux, un gouvernement nationaliste hindou, et pas simplement indien, avec en Inde une montée de l'intolérance religieuse qui est très alarmante. La connivence entre le pouvoir du président Poutine et l'Église orthodoxe, l'émergence des évangéliques je l'ai mentionné, mais il faut le dire aussi en Amérique centrale et en Afrique, l'apparition d'un fondamentalisme bouddhiste, qui aurait cru que le bouddhisme que nous voyons en Occident comme la religion la plus zen, si j'ose dire, produit en elle-même un fondamentalisme que l'on trouve à l'œuvre aujourd'hui en Thaïlande ou au Sri Lanka ou en décembre. Il y a eu des émeutes anti-musulmanes extrêmement violentes. Et je ne fais que mentionner, mais évidemment, nous l'avons tous à l'esprit, la question du fondamentalisme musulman, de l'extrémisme, du salafisme, du djihadisme, et on pourrait parler longuement de tous ces qualificatifs, de tous ces noms, pour savoir s'ils se recoupent, s'ils sont synonymes, dans quelle mesure l'un conduit à l'autre. C'est plus complexe que tout ce que les raisonnements actifs pourraient dire, mais enfin, ça. Alors, moi, ma conviction, c'est que on n'est pas tant dans le retour du religieux que dans le réveil de l'Occident au religieux. Non pas forcément que l'Occident revienne à la religion, mais il se réveille de ses illusions du XXe siècle. Hein, ces illusions, beaucoup de philosophes ont écrit là-dessus, rationaliste, positiviste, cette croyance que le progrès avait sa propre dynamique, que la science allait permettre de supplanter la croyance et qu'on allait pouvoir fonder sur la raison l'avenir de l'humanité. Ordre et progrès, c'est la devise du Brésil sur le drapeau, c'est tiré d'Auguste Comte. Je pense que déjà l'histoire du XXe siècle, y compris chez nous en Europe, avec ce qui s'est passé avec les deux premières guerres mondiales, surtout la deuxième et toutes ces horreurs, interroge sérieusement cette croyance dans le progrès. Loin de moi de dire que je ne crois pas au progrès, mais j'ai le sentiment que l'Occident a idolâtré en quelque sorte le progrès, s'est aveuglé, et nous avons aujourd'hui un retour du religieux sous nos yeux, parce qu'il y a une mondialisation et que nous découvrons qu'en fait le religieux était présent pendant tout le XXe siècle, partout ailleurs, à l'exception de notre société. Pour nous, la guerre d'Algérie était une guerre d'indépendance. Mais le mot de Moudjahid, de Moudjahidin, c'était les combattants de la guerre d'Algérie, c'est un mot religieux. Le Moudjahid, c'est celui qui fait le djihad. Là où nous pensions que, pour le regretter ou pour nous en féliciter, que la religion était en perte d'influence, ailleurs, elle restait très 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 vivant. Ce réveil du religieux est d'autant plus difficile que la société occidentale est très largement sécularisée. Alors, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, il faut distinguer le concept de laïcité, qui est un concept juridique qui s'applique à l'État, et le concept de sécularisation, qui est un concept sociologique qui s'applique à la société. Au passage, c'est une des grosses difficultés que nous avons, parce qu'en anglais, on ne fait pas la distinction. Quand je parle à l'étranger sur la laïcité, je dois expliquer des concepts, parler de traduction. La seule langue que je connaisse où la laïcité existe, c'est le turc. On dit laïclik. Lik, c'est le concept, c'est la terminaison du concept. Mais la laïcité turque est très très différente de la laïcité française. Et donc, la proximité sémantique est en fait très piégée, puisqu'elle camoufle une grande différence de contenu. En général, quand vous parlez devant un auditoire arabe et que vous parlez de laïcité, le traducteur va traduire par athéisme. Et on fonce tête baissée dans le quiproquo, le malentendu. Donc il faut être très très vigilant là-dessus. Alors nos sociétés sécularisées, pour y revenir, sont finalement très démunies devant ce retour du religieux qui prend aujourd'hui des formes très agressives, notamment avec le salafisme et le djihadisme, mais je le répète, pas seulement, je pense par exemple à la crise des Rohingyas en Birmanie, ou à tous les conflits qui déchirent l'Afrique et bien d'autres zones. Ayant perdu notre culture religieuse, nous sommes bien dans l'embarras pour élaborer un propre discours religieux. Alors, évidemment, ce n'est pas l'État qui va élaborer un propre discours religieux, puisque l'État n'est pas religieux, il est religieusement neutre. Et la société elle-même a beaucoup de mal à élaborer un contre-discours religieux devant le discours extrémiste. Et si on prend la problématique musulmane, j'ai envie de dire qu'il y a soit des discours inopérants, pour parler clair, c'est pas par la laïcité qu'on va vaincre Daesh. Ce qui ne veut pas dire que je suis hostile à la laïcité, bien au contraire. Mais c'est pas opérant. C'est pas ça le traitement. Et du côté du monde musulman, on a des contre-discours qui ne sont pas du tout adaptés au monde moderne. J'ai vu des fatwas anti-radicales produites par Al-Azhar, c'est absolument consternant. Et le gars, il est français, il est étudiant, il est chauffeur Uber et étudiant, il écrit, voilà, il y a une fille dans ma cité qui va à la même fac que moi, est-ce que je peux la prendre dans ma voiture pour l'emmener à la fac? Et il y a 10 pages de raisonnement, on invoque les plus grands savants musulmans du Moyen-Âge, pour aboutir à la conclusion que rien dans le Coran n'interdit de prendre une fille dans la voiture, mais si on le fait, il faut être absolument certain de ne pas éprouver la moindre pulsion, la moindre tentation, la moindre concupiscence à son égard, et que donc si on n'est pas sûr de le faire, faut pas le faire, mais que si on est sûr, pour pas tenter le diable, faut pas la mettre devant, se mettre derrière, et pas avoir l'axe du rétroviseur pour. Mais je j'invente pas, hein, je l'ai vu moi-même. Voilà, donc grande difficulté à aborder les défis du monde religieux. De ce point de vue-là, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Le rôle du Conseil pour les affaires religieuses, qui a été créé en 1920, a pris une importance considérable. Quand je suis entré au ministère en 1987, le Conseil pour les affaires religieuses, c'était un universitaire. On lui téléphonait, il n'y avait pas de mail à l'époque. On lui téléphonait de temps en temps pour prendre un avis, mais il était très très marginal. Aujourd'hui, je peux pouvoir dire que le Conseil pour les affaires religieuses est inséré dans le cœur du dispositif. Il est rattaché au cabinet du ministre, il participe aux réunions d'instruction des ambassadeurs, il voyage, il est envoyé en mission, il rencontre des gens, il participe à la définition et mise en œuvre de la politique étrangère de la France. Dès lors que, je ne sais pas si vous l'avez compris, on ne peut pas ignorer le fait religieux, ou en tout cas, quand on est une diplomatie globale, comme la diplomatie française, qui prétend en être, c'est-à-dire qui prétend jouer sur la totalité du clavier des relations internationales, les relations politiques, économiques, culturelles, militaires, les échanges de jeunes, la gouvernance mondiale, que nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité, donc nous avons des responsabilités pour la paix et la stabilité du monde, nous devons prendre en compte le fait religieux. Quelles peuvent être les méthodes d'approche, très très sommairement, je dirais connaître et comprendre. Connaître, voilà, c'est la connaissance, c'est la culture. Je pense qu'on n'est pas très nombreux, si vous voulez, au Quai d'Orsay, à avoir le bagage pour remplir ce rôle. Moi, pour des raisons personnelles, je connais bien le monde chrétien, j'étais en poste à Jérusalem, j'ai fait 30 ans de ma carrière dans le monde musulman, chez les sunnites, chez les chiites, chez les sunnites wahhabites, chez les sunnites pas wahhabites, chez les wahhabites hard et chez les wahhabites soft. J'ai cette gamme d'expériences qui m'est très utile. Je vois beaucoup de mes collègues, y compris spécialistes de la même zone que moi, Afrique du Nord, Moyen-Orient, quand ils entendent l'islam politique, ils entendent politique. Donc les frères musulmans, c'est un parti qui est interdit, réprimé par le gouvernement égyptien. Ils ont fait une alliance, ils n'ont pas fait d'alliance avec le mouvement Al-Nour, qui est un parti politique, salafiste. Les uns sont soutenus par le Qatar, les autres par l'Arabie Saoudite. Voilà, on est dans l'analyse politique. Mais on passe à côté de la question fondamentale, pourquoi au XXe et XXIe siècle, l'islam politique a-t-il réussi à avoir cette influence dans l'islam politique? Je suis désolé, il y a l'islam aussi. Alors mes amis musulmans me disent non, pas du tout, c'est pas l'islam. C'est pas... Moi je suis tout prêt à les croire. Mes amis musulmans ne sont pas en général sur cette tendance politique. Il n'empêche que pour tous les gens qui suivent ces mouvements, il y a la conviction que c'est leur foi, leur religion qui les amène à cet engagement politique. C'est la même chose sur le terrorisme. J'ai suffisamment d'amis musulmans, suffisamment de respect pour, non seulement pour les musulmans, mais pour l'islam, pour être au-dessus de tous ceux qui sont là-dessus. Je ne fais pas l'amalgame entre l'islam et le terrorisme. En plus que je ne fais l'amalgame entre le catholicisme et la pédophilie, si vous me permettez. Mais il n'empêche que le type qui poignarde à Paris l'autre jour, des passants en criant Allahu Akbar, lui fait l'amalgame. Et donc on ne peut pas se contenter d'une analyse politique et d'une analyse idéologique qui... étudier une religion, c'est étudier ses déviances aussi, c'est étudier sa sectarisation, c'est étudier le pourquoi. La question, si vous voulez, qui m'a été posée un jour par un haut responsable de l'islam de France, sur cette forme que j'ai trouvée très émouvante, c'était avant Charlie, après que Daesh ait conquis la plaine de Ninive. Donc c'était le moment du réveil brutal, si vous voulez. Et il m'a dit, je n'endors pas la nuit, je suis obsédé par la question, qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce que nous n'avons pas fait, qu'est-ce que nous avons mal fait pour arriver à cette situation. Et ça suppose une analyse, une connaissance, une culture. Alors comment a-t-on la culture? Moi j'ai 30 ans de carrière, 59 ans de vie, où je me suis beaucoup intéressé, j'ai rencontré des gens, j'ai parlé, j'ai questionné, j'ai lu, et je continue. Je suis pas, je puis ben, là-bas, la science absolue, je connais mieux l'islam que les religions asiatiques, mais le contact avec les... Ben, ça m'arrive de passer un coup de fil au pasteur Claveroli ou à Jean-Arnold de Clermont pour dire un truc que je n'ai pas bien compris dans le protestantisme. Et, voilà. Donc ça suppose un dialogue avec les milieux religieux et avec les milieux académiques, parce que je crois qu'il est très important que les sciences religieuses ne soient pas seulement la propriété des religions. Si c'est le cas, ce que vous faites à l'IHNR n'a aucun sens. Et si c'est le cas, nous nous enfermons dans une approche qui est une approche, je veux dire, dogmatique. Et je pense que donc le dialogue, moi je vois ça comme un dialogue à trois, si vous voulez, il y a le dialogue des pouvoirs publics que j'incarne modestement dans ma fonction, le dialogue avec le monde des croyants, les rencontres avec les communautés et les autorités religieuses, et puis le monde académique de l'analyse scientifique. La perte de culture religieuse de notre société est un problème. Soyons clairs. Le sénateur, quand j'étais ambassadeur au Qatar, qui lui dit, je sais pas compris, monsieur l'ambassadeur, j'avais fait un exposé préliminaire à la délégation, j'ai pas compris. Vous avez dit les chiites, c'est des musulmans. Voilà. Ben oui, les chiites, c'est des musulmans. Alors après, je me suis dit, mais en fait, il est complètement ignare, c'est l'élu du peuple. Honneur à nos élus, comme on dit dans nos villages, mais sa question est révélatrice, parce que dans le même Qatar, pays sunnite ou wahhabite, soft par rapport aux grands voisins, les Qatariens ont créé un centre de dialogue interreligieux. Et comme ils avaient assez vite perçu, on va dire, l'intérêt que j'avais pour ces matières, ils m'ont demandé de travailler avec eux et souvent ils m'ont demandé conseils, on voudrait inviter, on connaît mal le monde chrétien, est-ce que vous pouvez nous donner des noms. Et un jour j'ai dit au directeur du centre, je lui ai dit, mais Ibrahim, je comprends très bien compte tenu de la position géopolitique du Qatar, mais tout le travail du centre est orienté sur le monde islamo-chrétien. Or il y a 500 000 Indiens au Qatar, et, est-ce que... Vous ne voulez pas ouvrir aussi à d'autres problématiques. Il me dit, moi, je suis très ouvert à tout le monde. Je suis prêt à inviter des autres religions, des bouddhistes, des hindous, même des chiites. Et donc, vous voyez, lui-même était dans ce travail. Alors, je raconte ça, c'est anecdotique, parce que finalement, c'est exemplaire du manque de culture. Lui se pensait très cultivé, il pouvait me réciter le Coran par cœur. Il se pensait probablement très cultivé dans son domaine. Mais c'était une contre-culture, c'était une fausse culture, c'était une connaissance qui était dépourvue de questionnement et d'ouverture. Donc il y a une grande difficulté. Voilà. Deuxièmement, il faut comprendre. Comprendre, c'est entrer dans l'histoire, dans la géographie, dans la pensée, dans l'idéologie, dans la dogmatique. Mais c'est autre chose aussi. Et comme je suis ancien élève de Jésus, si on peut dire un mot qui tient à cœur aux jésuites et aux papes jésuites que nous avons aujourd'hui, c'est le discernement. C'est-à-dire que aucune connaissance théorique ne suffira à vous faire comprendre une situation donnée. Et donc vous avez une nécessité de discernement. Alors discernement, d'abord sur quoi ? Sur le politique et le religieux, sur ce qui est religieux et qui ne l'est pas. Je me souviens d'un ministre, je ne donnerai pas le nom, qui me dit, moi j'ai compris, en fait, tout. Voilà, il avait fini par comprendre, c'est un peu ça, son expression, voilà, se sentait mieux. Il avait compris que tout était lié au conflit sunnite-chiite. Et moi je ne suis pas permis, c'est le ministre. Mais là il y avait un interlocuteur extérieur qui lui dit, mais monsieur le ministre, quelle est selon vous l'influence de la problématique sunnite-chiite dans le conflit en Colombie? Et son truc s'est écroulé, justement. Donc, il faut se méfier des idées toutes simples, des idées trop simples, des idées reçues. Et il faut arriver à discerner, à séparer, si vous voulez, à discerner, comme quand on défait un nœud, hein, ce qui est politique et ce qui est religieux. Je donne un exemple, j'ai vécu à Jérusalem, la question palestinienne est politique, elle n'est pas religieuse. Elle est fondamentalement politique. C'est un problème de décolonisation athée, c'est un problème de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est un problème de résolution du Conseil de sécurité qui ne s'est pas appliqué, c'est un problème d'occupation de l'un par l'autre. Et on met la religion dessus. Alors il y a une dimension religieuse parce que c'est la Terre Sainte, trop sainte. Churchill disait des Balkans, c'est une terre qui produit trop d'histoires par rapport à ce qu'elle peut supporter. Et là, on a envie de dire ça pour la Terre Sainte, elle produit trop de spiritualité pour ce petit bout de terre. Donc il y a une dimension religieuse, évidemment, mais fondamentalement, c'est un sujet politique. Alors, quel est l'enjeu? Si un jour les partis israélienne, palestinienne, un jour qui paraît loin, enfin, il faut garder l'espoir, arrive à se mettre d'accord, qui sera un accord politique, qui sera, je pense, béni par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et à ce moment-là, vous aurez les religieux, de deux côtés. Vous aurez des religieux qui diront, de deux côtés, c'est absolument dégueulasse, c'est scandaleux, cette terre nous a été donnée par Dieu, on n'a pas le droit d'abandonner, on n'a pas le droit de brader la terre sacrée du peuple juif ou la terre d'islam, etc. Et puis vous aurez aussi des religieux des deux côtés qui diront oui, cette terre est sacrée, mais elle est sacrée par les hommes qui y vivent, la paix est un don de Dieu, dans nos deux langues on se salue au nom de Dieu par le shalom, salam, la paix. Peut-être qu'entre les musulmans majoritaires en Palestine et les juifs, les chrétiens, il ne faut pas oublier dans le paysage, pourront aussi apporter leur contribution. Vous aurez des chefs religieux qui diront la paix vaut mieux que la possession de la terre, et la paix est le respect de la vie. Nos diplomaties françaises, à ce moment-là, nous devrons soutenir les uns et essayer de neutraliser les autres. Neutraliser sans violence, hein, bien sûr, mais neutraliser leur influence, limiter leur influence. Donc nous avons aussi un discernement à faire sur les acteurs. Un autre exemple, parce que je veux sortir un peu du Proche-Orient, c'est la République centrafricaine. En 2013, quand l'armée française est intervenue avec l'opération Sangaris, parce que nous faisions une analyse, qu'on était au bord d'un processus rwandais, avec des massacres interethniques qui étaient sur le point de vraiment dégénérer, nous avons voulu lancer un processus politique de réconciliation que la France ne pouvait pas faire. La France ne peut pas prendre les Centrafricains et les obliger à s'aimer. Donc il fallait s'appuyer sur les personnalités centrafricaines. Et celles que nous avons trouvées, c'était des religieux. Donc vous aviez, dans le même temps, vous aviez des religieux qui appelaient à la haine, et puis vous aviez des processus de d'épuration ethnique dans certaines parties du territoire sur une base religieuse. Les musulmans chassaient les chrétiens chassaient les musulmans, la Séléka chassaient les chrétiens, les Antibalaka chassaient les musulmans. Et en même temps, les gens qu'on a trouvés pour un processus de réconciliation, c'était ce beau trio formé par l'archevêque catholique, devenu cardinal depuis, Monsieur Zapalinga, le pasteur Gero Keyame, parce que j'ai un peu de mal avec ce mot, les mots africains, c'est compliqué, et puis l'imam de Bangui. Donc le travail, le discernement, pour comprendre un phénomène, c'est éviter les deux erreurs fatales qui seraient de celle dans laquelle nous avons longtemps vécu, finalement la religion, ça n'est plus important, et celle qui consisterait à dire mais tout est religion et donc on ne s'occupe plus des problèmes de sécurité, des problèmes de développement économique, des problèmes de justice sociale, des problèmes d'éducation, des problèmes de santé. C'est tellement vrai que si vous prenez par exemple la zone de Boko Haram, le nord du Cameroun, le nord-est du Nigeria, c'est quoi le recrutement de Boko Haram? Idéologie, de grand but. C'est une idéologie tellement inconsistante. Et quand vous n'avez rien et que vous avez quelqu'un qui vous dit si tu viens avec moi, tu auras $50 par mois. Parce qu'il n'y a pas de développement. Donc vous ne pouvez pas, dissocier la problématique de Boko Haram de la problématique du développement dans toute cette région, dans le bassin du lac Tchad. On n'est qu'une impasse, puisque il n'y aura pas de développement tant qu'il n'y aura pas la sécurité. Il ne peut pas y avoir de développement sans la sécurité. Et on n'arrive pas à vaincre vraiment Boko Haram tant qu'il n'y a pas le développement. Et ça, c'est une problématique politique. Pour finir sur cette question de du discernement, j'ai envie de vous dire, en cherchant bien, je ne suis pas sûr qu'il y ait jamais eu un conflit qui soit réellement religieux. L'Arabie Saoudite et l'Iran, alors ne me faites pas dire qu'il n'y a pas de religion, c'est les sunnites contre les chiites. Enfin, il y a 3000 ans, il y avait une Mésopotamie sémitique autour de Babylone, il y avait une Mésopotamie indo-européenne, iranienne, autour de Suse et du royaume de l'âme, et beaucoup de langues. Pas de chimie sous pauvre. Donc on est sur des lignes, on en parle, je ne suis pas du tout partisan du choc des civilisations de Huntington, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui m'intéresse dans la diplomatie, ce sont ces lignes où les mondes se rencontrent, où les plaques tectoniques se rencontrent. Et je crois que, n'oubliez pas que l'Iran n'est chiite que depuis le XVIIe siècle, lorsque la dynastie Safavide a décidé de se donner comme religion d'État le chiisme du haut des Simas pour se différencier du reste du monde musulman. Donc même le choix religieux de choisir l'une des deux principales branches de l'islam était un choix politique. Alors les conflits sont politiques. Mais quand vous mettez de Dieu dedans, alors là, c'est quand même beaucoup plus coton. Pour une raison très simple, c'est que Dieu n'est pas une matière à compromis. Un conflit ne peut se régler que par un compromis. Une négociation. Et Dieu n'est pas. Si Dieu est absolu, Dieu n'est pas matière à négociation. Même si dans la Bible, on voit parfois Dieu qui négocie dans cet épisode que je trouve extraordinaire et qui pour moi est un épisode fondateur de la diplomatie, qui est l'épisode, monsieur le pasteur, de Sodome et Gomorrhe. Abraham a quand même ce culot incroyable de négocier avec Dieu. Mais pour 10, pour 5. Voilà. Alors, sur cette base, maintenant, si on va un peu plus dans le concret, comment la diplomatie française est organisée. Alors là, je suis désolé, je vais vous parler un peu plus de moi. Hein, nous avons d'abord quelques acteurs spécialisés. Quelques acteurs spécialisés au Quai d'Orsay. Je ne parle pas des gens, hein, je ne parle pas de monsieur Dupont et de madame Durand qui sont des connaisseurs, je parle des fonctions. Donc la première fonction, c'est évidemment le Conseil pour les affaires religieuses qui a été créé en 1920. Et l'histoire est intéressante parce que 1920, c'est indissociable des grands combats entre la religion et la République au XIXe siècle jusqu'à la loi de 1905. La loi de 1905 est en fait un traité de paix, après un siècle de guerre civile idéologique. Mais il y avait un tel passif, l'expulsion des congrégations, la confiscation des églises, des écoles religieuses, etc., que ça n'a pas été perçu comme tel. Et puis pour l'Église catholique, il y a eu un affront qui a été la dénonciation du concordat. De manière paradoxale, parce que le concordat confiait à l'État la nomination des évêques. Or, l'histoire de l'Église catholique, c'est 2000 ans d'histoire pour assurer la liberté de l'Église catholique dans la nomination des évêques. C'est l'histoire de la querelle des investitures au Moyen-Âge, le pape contre l'empereur. Voilà. Mais il y avait un tel passif que le Saint-Siège a vu la dénonciation de l'accord, la crainte pour les écoles, tout ça, peut-être non sans raison. Et donc il y a eu rupture des relations diplomatiques. Il a fallu attendre 1920, c'est-à-dire qu'après la Première Guerre mondiale, après l'Union nationale de la Première Guerre mondiale, je pense à Aragon, même s'il l'a dit à propos de la Deuxième Guerre, celui qui croyait au ciel et celui qui ne croyait pas, est ensemble dans les mêmes tranchées. Et donc, il y a eu la volonté de réconciliation. C'est donc en 1920, reprise des relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège, et puis tout un travail de normalisation des relations. Il fallait inventer un nouveau type de relation avec l'Église, parce que nous étions séparés. Pour reprendre la polémique après les propos du président de la République aux Bernardins, c'est la question du lien et de la relation. Le lien a été rompu, mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de relation. J'ai utilisé l'autre jour, parce que j'étais interrogé là-dessus, j'étais au Sénégal, et c'est toujours étonnant quand on va dans des pays comme ça de voir que tous mes interlocuteurs connaissaient par cœur le discours des Bernardins, ils l'avaient décortiqué, ils l'avaient analysé, et alors ils m'ont demandé le sens, et je leur ai dit, mais finalement, le Sénégal est devenu indépendant. On a rompu le lien. Ça ne nous empêche pas d'avoir des relations. C'est un peu la même idée. Donc le Conseil pour les affaires religieuses a été d'abord le négociateur de tous ces accords avec le Saint-Siège, qui font que, je vous le dis au passage, bien que laïque, la France considère que le nom, c'est le doyen du corps diplomatique, le droit.
Le nonce.
Okay. C'est arrivé la semaine dernière, pas seulement tout le monde. Il y a un circuit particulier, la France maintient sa politique de soutien aux chrétiens d'Orient, et que par exemple le consul général à Jérusalem reçoit des honneurs liturgiques, toujours. Que le gouvernement français est consulté sur la nomination des évêques. Nous sommes le seul pays au monde dont le gouvernement est consulté par le Saint-Siège pour la nomination des évêques. Donc, la laïcité n'a perdu pas le réalisme, le pragmatisme et un certain modus vivendi. Donc, la fonction du Conseil pour les affaires religieuses a évolué. Aujourd'hui, c'est quoi la fonction? Je dirais d'abord conseiller le ministre et les collègues du ministère sur les affaires religieuses. Alors ça consiste d'abord à donner une information. C'est quoi les chrétiens d'Orient? Qu'est-ce que c'est que les Syriens? Est-ce que les Syriens sont catholiques? Ça dépend. Les Syriens catholiques, les Syriens orthodoxes. Quand ils sont orthodoxes, ça ne veut pas dire orthodoxes au sens byzantin, parce que c'est les pré-calcédoniens. Mais c'est quoi les pré-calcédoniens? Les conciles de Calcédoine? Donc, voilà. Comme les sénateurs qui me demandaient si les chiites, les musulmans. Et puis, bon, vous partez du niveau. Vous vous adaptez finalement, vous êtes comme un enseignant, vous vous adaptez à votre interlocuteur, ça peut être parfois très basique, ça peut être parfois très pointu. Y a-t-il une différence dans l'approche, dans l'approche politique entre les quatre écoles du sunnisme? Donc c'est d'abord une connaissance, c'est ensuite une analyse, c'est le discernement dont je vous parlais tout à l'heure, c'est de comprendre la dimension religieuse. Moi, par exemple, un sujet sur lequel on a travaillé il y a 18 mois, au moment de l'élection de Trump. Comment la droite américaine, évangélique, pétrie de puritanisme, a-t-elle pu se reconnaître dans Donald Trump? Je ne juge pas, je ne juge personne. Mais moi, ça me pose une question. Et ce n'est pas tout à fait la solution. Quels sont les mécanismes par lesquels une...
Elle s'est reconnue ou c'est là aussi un usage politique? Est-ce qu'elle s'est reconnue ou elle a trouvé un usage politique?
Est-ce que vous avez quelques éléments de réponse? Justement, ça nous intéresse, ça aussi.
Je Oui, enfin, il y a des éléments de réponse, mais qui ne sont pas complètement satisfaisants, parce que je pense que ça n'explique pas tout. Il y a des éléments de réponse par le rejet de la candidate d'en face. Il y a des éléments de réponse par la théologie, qui pour nous, Européens, est quand même très étonnante, la théologie de la prospérité. Donc, être riche est un signe de bénédiction de Dieu. D'ailleurs, c'est marqué qu'Abraham était très très riche, qu'il était béni par de Dieu, et donc on fait ce rapprochement. Et d'ailleurs, au moment de la prestation de serment, Trump a demandé à une pasteur adepte de cette idéologie de la prospérité de recueillir son serment. Voilà, donc il y a tout ce travail d'analyse que l'on fait avec nos postes, avec les directions générales. Pour le faire avec les postes, il y a un travail de formation. Un travail de formation, donc moi j'essaye dans mes déplacements toujours de rencontrer les collègues pour leur dire ce que je fais. Si je suis 4 jours au Sénégal, je suis 4 jours avec l'équipe de l'ambassade, donc c'est 4 jours de dialogue. Quelquefois ça prend une forme un peu plus organisée, un peu plus formelle, mais souvent c'est simplement l'échange. Ma deuxième fonction, c'est d'être un interlocuteur des autorités et des communautés religieuses sur tous les sujets. Donc, voilà, vous avez la réunion cet après-midi, parce que la semaine prochaine, il y a le patriarche maronite qui vient en France, qui sera reçu par le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale. Il y a des questions de protocole, il y a des questions de sécurité, il y a des questions de fond aussi, de préparer des dialogues. Et alors, avec les autorités et les communautés, parce qu'il y a des religions où il n'y a pas d'autorité, il y a des religions où l'autorité n'est pas unique. Le fonctionnaire que je suis, une république jacobine centralisée, rêve de la structure de l'Église catholique qui est la plus simple, parce qu'elle est hiérarchique et centralisée. Les autres religions sont beaucoup plus difficiles à saisir. Le consistoire central ne représente pas tout le judaïsme, même s'il en représente une grande majorité. Les courants, le courant libéral ou le courant massorti ne sont pas représentés au consistoire central. La fédération protestante ne représente pas tout le protestantisme. Le CNEF, Conseil national des évangéliques de France, ne représente même pas tous les évangéliques.
Tout à fait.
Donc, et je ne parle pas de l'islam avec ce paradoxe que l'islam de France est très majoritairement sunnite de rite malikite, puisque c'est le rite qui est présent en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne, et qu'il est divisé en fédérations de mosquées selon les pays d'appartenance, les pays d'origine, les Algériens et les Marocains, compte tenu de la relation entre leur capitale, enfin leurs deux pays. Souvent en conflit, et la fédération marocaine a fait scission, et donc il y a deux fédérations marocaines maintenant. Voilà, donc c'est compliqué. Et le travail consiste justement à être ouvert à l'égard de tout le monde, sauf ceux qui ont vraiment des raisons de ne pas être fréquentables, et de savoir analyser qui est qui, ce qu'il représente, de veiller aussi à ce que. On ne puisse pas dire, le conseiller, là, il nous néglige complètement, à peine s'il nous connaît, donc il faut être assez œcuménique. Et on parle de quoi ? Ben de tout. On commence par des toutes petites choses. On passe beaucoup de temps à régler les affaires de visa. Dans nos postes diplomatiques et consulaires, quand un religieux demande un visa, souvent c'est très mal compris. C'est quoi cette communauté? Je ne sais pas. Est-ce que vous connaissez cette mosquée? Là, on est en ramadan. Il y a beaucoup de. Il y a des prédicateurs, des psalmodiens qui viennent pour le ramadan. Mais c'est parfois des choses même presque plus anecdotiques. Je me souviens de ce poste qui avait refusé un visa à une carmélite parce qu'elle n'avait pas de ressources. Ouais, la carmélite a fait un vœu de pauvreté. Donc il fallait expliquer à notre poste que c'est si la carmélite avait été riche.
Oui.
bite était louche.
Donc on est, si vous voulez, on est un peu le... Je veux dire, on est un transformateur. On a un monde religieux qui connaît mal l'administration, qui vient un peu dans ce monde. On a un monde administratif qui connaît mal le monde religieux. Et on doit faire comme, je sais pas, comme l'arrimage de l'administration. Il faut que les deux mondes se trouvent. Et puis, il y a tout un dialogue sur les grands sujets. On parle de la liberté de religion et de conviction. On parle de la laïcité. On parle de... on parle des droits de l'homme, pas simplement de la liberté de religion. Moi, je suis partisan du dialogue avec les religions sur des sujets qui nous opposent souvent. Je pense aux droits sexuels et reproductifs, par exemple. On parle de la protection des minorités. Il est plus engagé pour la protection des chrétiens d'Orient et des autres minorités. C'est un sujet. On serait parti pour de longues heures, et c'est un sujet qui est très, très complexe. On parle évidemment de la lutte contre la radicalisation. La lutte contre la radicalisation a tout un champ policier, judiciaire, militaire, du renseignement, dans lequel moi je n'interviens pas. Nous avons une direction des affaires stratégiques qui est en charge, on va dire, du sécuritaire. Mais ça ne sert à rien d'arrêter des terroristes si on continue à avoir de nouveaux terroristes qui... Ça ne sert à rien. Enfin bon, ça règle pas le problème. Et donc, il y a un travail à faire sur les cœurs et sur les esprits des gens. Moi, je dis souvent, je ne suis pas celui qui va empêcher l'attentat de demain. J'essaye de travailler avec des gens qui vont faire en sorte que dans 50 ans, on n'ait plus à empêcher, on n'ait plus besoin d'empêcher l'attentat de demain. Et donc, il y a tout un travail avec les responsables religieux, notamment musulmans, qui est compliqué, parce qu'il ne faut pas être dans l'injonction, ça ne sert à rien d'être donneur de leçons. D'ailleurs, pour être donneur de leçons, il faut être en position de l'être, et je ne suis pas sûr qu'on le soit toujours. Mais c'est vrai qu'ils ont une responsabilité qui est importante. Et donc, je participe à beaucoup de colloques, de conférences. Quand je vais à l'étranger, je rencontre les responsables religieux pour parler de tout ça. Voilà, et mon troisième rôle, c'est que je suis le référent de laïcité du ministère des Affaires étrangères. En fait, nous sommes deux référents de laïcité. Il y en a un qui est auprès du directeur général de l'administration pour les questions internes, questions de, on va dire, de droit de la fonction publique. Moi, je suis plutôt chargé de ce que j'appelle la diplomatie de la laïcité, cette laïcité qui est mal comprise, que j'essaie de faire comprendre à l'étranger, dans l'esprit que je vous disais au début de mon intervention. Dans la pédagogie aussi, avec mes collègues du ministère, dans les négociations, parce que vous avez toutes les sensibilités. J'ai quelquefois des collègues qui sont un peu raides. Sur le sujet et qui j'essaie de faire une pédagogie interne. Moi, ma ligne qui je crois a progressé au ministère, c'est de dire la laïcité est seconde, c'est un moyen. La valeur de la République, liberté, égalité, fraternité, c'est des objectifs, et ça tous les pays du monde peuvent le comprendre. Il n'y a pas un pays qui va vous dire qu'il est contre la liberté. Il va peut-être piétiner la liberté. Et même la Corée du Nord, pour la liberté, il vous explique que son système est le système qui garantit le mieux la liberté des citoyens. Il y a loi de la coupe aux lèvres, d'accord. Mais ouais, si vous attaquez tout de suite par la laïcité, vous êtes mal compris. Quand vous attaquez par l'air, la liberté, l'égalité et la fraternité, ce sont des valeurs que le monde entier peut comprendre et accepter. Et donc le dialogue est possible. Ma responsabilité, notamment au sein de l'Observatoire de la laïcité, où je siège, de droit, c'est pas
moi, c'est le conseil de la paix religieuse qui est membre de droit, c'est que j'apporte à l'Observatoire la dimension internationale. On vient de publier le rapport annuel de l'Observatoire, il est en ligne sur le site de l'Observatoire.
Ah, il est sorti.
Oui. Il a été remis la semaine dernière au président de la République. Donc vous pouvez y aller, c'est pas les seuls passages intéressants, mais c'est ceux qui se rapportent à notre séance d'aujourd'hui, mes contributions. Et moi, ce que j'essaie de bien faire comprendre, y compris dans le débat intérieur, sur, par exemple, le débat sur le port des signes religieux, c'est que non seulement il faut que nous soyons conscients de l'impact de nos débats sur notre image à l'étranger, et donc sur notre influence, on ne dira jamais assez combien le débat sur le burkini a été désastreux pour notre image à l'étranger, mais aussi il faut qu'on soit conscient que nous avons des engagements internationaux. Et qu'il serait fâcheux que nous soyons un jour condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme sur une question de liberté fondamentale, de la liberté religieuse. Et donc, c'est pas simplement. On a cette phrase étonnante hein, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui en dit long sur les débats qui ont agité la France pendant des siècles. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. Même religieuse. C'est très étonnant comme formulation. Hein. Et ça en dit long sur cette tradition d'anticléricalisme qui perdure encore. Mais il y a aussi nos engagements internationaux. Comme je le disais tout à l'heure, la Déclaration universelle des droits de l'homme est explicite. Elle ne permet pas de cantonner le religieux à l'espace privé. Donc ça, c'est mes trois fonctions. Alors, il y a d'autres fonctions ad hoc. Évidemment, l'ambassadeur prend le Saint-Siège. Enfin, l'ambassade prend le Saint-Siège. Le Saint-Siège est une puissance politique, mais une puissance politique qui est d'un statut tout particulier. C'est, pour être exact, c'est pas un État. C'est un sujet sui generis de droit international. Entre 1870 et 1929, quand il n'y avait pas d'État de la cité du Vatican, nous avions des relations diplomatiques avec le Saint-Siège. C'est le Saint-Siège, et l'ambassadeur est ambassadeur près du Saint-Siège, il n'est pas ambassadeur auprès de la cité du Vatican. Et c'est le Saint-Siège qui est membre des Nations Unies, qui est observateur, qui ne veut pas être membre pour ne pas avoir à voter, pour ne pas avoir à prendre parti entre des États. Mais il est un participant à l'OSCE, il est membre du Conseil de l'Europe, le Saint-Siège. Et l'État de la Cité du Vatican, qui est le support territorial, est membre de certaines organisations techniques comme l'Union postale universelle. Et comme vous savez, le Saint-Siège est d'Aletan. Les philatélistes le savent bien, c'est l'Arsenal est très d'Aletan. L'Union internationale des télécommunications, qui répartit les fréquences, parce qu'il y a Radio Vatican. Et donc l'ambassadeur près du Saint-Siège suit les questions politiques, mais analyse aussi les questions plus religieuses. La nomination des nouveaux cardinaux ce week-end, l'affaire de l'Église du Chili et du scandale de pédophilie qui a entraîné la démission pour la première fois dans l'histoire de tous les évêques du pays. Et nous avons à Rome, au sein de l'ambassade, nous avons un prêtre qui est le conseiller ecclésiastique près de l'ambassade de France, près de Saint-Siège. Comment ? Père Gacco, qui est un prêtre du diocèse de Lyon, qui est recruté en accord avec la conférence des évêques. Hein. Quand le prêtre précédent a quitté ses fonctions, il a saisi la conférence des évêques, le secrétaire général a consulté tous les diocèses, a fait remonter les candidatures, on a auditionné les candidatures. Et le père Caco m'avait demandé, mais qu'est-ce que vous attendez exactement de moi? Je lui ai dit, mais on attend de vous que vous soyez pleinement prêtre. C'est pas la peine d'aller recruter un prêtre s'il n'assume pas le fait d'être prêtre. Nous, on a besoin de quelqu'un. La plus-value, c'est quelqu'un qui va nous aider à comprendre les positions et les évolutions du Vatican de l'intérieur, avec le regard justement de l'ecclésiastique. Est-ce que dans ce texte il y a une inflexion de doctrine, est-ce qu'il y a une continuation de doctrine, est-ce qu'il y a une continuité, un changement? Et je lui ai dit, mais en même temps, on attend beaucoup, vous soyez pleinement diplomate. Vous faites partie de l'équipe, vous vous intégrez dans l'équipe.
Comment il gère la double autorité?
Comment
gérer la double autorité? Si j'applique ce principe-là à d'autres pays, en Corée du Nord, je vois un Français d'origine de Corée du Nord, parce qu'il peut tous comprendre le système, et comment un prêtre, ambassadeur de France auprès du Saint-Siège, peut gérer...
Conseiller
peut gérer une double autorité, une autorité morale qui est celle de son pape, et une autorité, je pense qu'elle existe, qui serait celle qui est la vôtre et celle du ministre.
Écoutez, je pense que c'est très simple, ça se passe très bien. Et si
je dis pas que ça se passe très bien.
Ça se passe très bien, et s'il y a un problème, il démissionnerait. Et ça se passe très bien parce que, si vous voulez, nous, on lui demande, comment dirais-je, on sait aussi qu'on ne va pas lui demander des choses qui sont contraires à sa foi. Il dit sa messe, il ne dit pas sa messe à l'ambassade, il dit sa messe à 5 000 des Français avant de gagner l'ambassade.
Comment France ? Comment ? Je suis d'accord, mais si la France décide, par exemple, de légaliser la GPA, tout ça.
Oui.
Et que nos ambassadeurs, en vrai, ils définissent, comme vous l'avez dit, d'un côté la laïcité et de l'autre côté la position française. Mmh. Il aura quand même, à un moment donné, un problème de définition par rapport à sa foi. Ce que je comprends, hein. Moi, j'ai pas de souci.
Non, mais non, parce que.
En dehors du problème démocratique que ça pose de l'égalité des candidats à un poste sur la fonction. Mais... Parce que s'il faut être prénommé par le diocèse, par les évêques, pour avoir un poste de diplomate en France.
Vous voulez critiquer, vous avez...
Je ne critique pas ces questions, moi. J'essaie de discerner ce que vous me dites.
Écoutez bien ce que j'ai dit. J'ai pas dit qu'il était prénommé. Il est nommé par le ministère des Affaires étrangères.
Ça, je suis d'accord.
Moi, j'ai besoin d'un candidat prêtre. Il serait contraire à la laïcité que j'aille chercher mon copain prêtre, parce que je le trouve sympa. Je m'ingérerais. Donc, nous demandons à la conférence des évêques de nous faire remonter des candidatures. Nous les auditionnons, c'est nous qui les auditionnons.
Oui, ça, je suis d'accord. Mais le fait que le candidat doit être prêtre, et qu'il puisse pas être, je sais pas, au fonctionnaire, je sais pas où, est-ce qu'il n'y a pas un problème de l'accès de tous les fonctionnaires à un poste de l'État?
Je pense que.
Qu'il soit prêtre, imam ou machin, on m'en fout. Hein. Enfin, c'est pas la question.
Un imam nous intéresserait moins à Rome,
telle sa spécificité que. Voilà.
Oui, je pense qu'il faut un petit peu de. J'ai parlé tout à l'heure du pragmatisme. Et voilà, et sur la GPA, bah, il y a certainement des ambassadeurs qui ne sont pas d'accord avec la GPA, enfin d'ailleurs la formation n'est pas la GPA, ou avec la PMA, mais il n'y a pas de problème. Et lui n'est pas. C'est pas l'homme qui décide, c'est pas l'homme qui. C'est pas l'homme qui va exposer. La position de la France, nous lui demandons de nous aider à comprendre le contexte. Voilà. Alors, il y a un troisième endroit, c'est le consulat général à Jérusalem, pour des raisons historiques très anciennes qui remontent à François Ier, à ce moment magnifique.
Les auditeurs l'ont rencontré.
Qui donc, François Ier.
Non, absolument absolument magnifique.
Plus pareil, je suis sûr que oui.
Absolument magnifique, on a eu sa lettre à l'exposition.
Absolument magnifique, on pourrait
pas se dire. Le consulat général de Jérusalem, ne fait pas que ça, parce qu'il est notre ambassade entre guillemets auprès des Palestiniens, mais il est aussi chargé de fonctions très concrètes, hein, de protection des communautés catholiques de Terre Sainte, alors communautés au sens des communautés, les sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition à l'hôpital, le monastère de la Bougorge, le Dominicain de la République, et les traités internationaux sont toujours en vigueur. Ça a un impact très concret qui est que ces institutions, si elles n'avaient pas après la protection française qui nous exempte de la taxe, aurait tout simplement fermé. Et puis un autre cas, c'est le consulat général à Jeddah, qui est un consulat que nous avons depuis très longtemps, et qui est chargé d'une part de la Mecque, donc il exerce la fonction consulaire sur le territoire du village, la Mecque et Médine, ce qui n'est pas anecdotique, hein, puisque nous avons à peu près 20 000 pèlerins chaque année qui, pour le grand pèlerinage, se rendent à la Mecque et à Médine, et que sur 20 000, c'est souvent des gens âgés, souvent des émotions, il y a souvent des gens qui font des malaises, et tous les ans, nous avons plusieurs décès, par exemple, sans parler de ceux qui veulent, qui perdent leur papier, leur passeport. On est dans la situation particulière, vous savez qu'à la Mecque, seuls les musulmans sont autorisés à venir, donc on est dans la situation très particulière pour la fonction publique française, de rechercher des agents de confession musulmane qui acceptent une allée de jouir pendant 3 mois.
Tout à fait con.
Pardon ?
Ah non, mais...
Je termine. Qui acceptent d'aller tenir l'antenne consulaire à Jeddah. Et puis, Jeddah est le siège de l'OCI, l'Organisation de coopération islamique, qui a une dimension religieuse, parce que pour ces pays musulmans, ce monde, mais qui est fondamentalement une organisation internationale de nature politique. Et le consul général à Jeddah est envoyé spécial de la France auprès de l'OCI. Voilà. Alors, cela dit, là, je vous ai cité 4 personnes ou entités qui ont un rôle particulier à jouer dans la gestion de faits religieux. Moi, ce à quoi je tiens beaucoup, c'est de faire passer l'idée que toute la diplomatie française doit prendre en compte ce fait religieux. Alors, il y a une expertise qui n'est pas la même partout, mais tout ambassadeur qui part dans un pays et ses collaborateurs doivent s'intéresser à la totalité de la vie du pays, la vie politique, la vie économique, la vie sociale, la vie académique, la vie intellectuelle, la vie culturelle, la vie sportive. On a un ambassadeur pour le sport qui est chargé de promouvoir les intérêts sportifs de la France. Alors, ça va de la candidature de la France pour organiser les événements internationaux, la candidature des Français dans les grandes fédérations internationales, la coopération internationale dans la lutte contre le dopage, la candidature aux Jeux Olympiques, je ne sais pas quoi. De même qu'on a les ambassadeurs reçoivent des instructions pour suivre aussi l'actualité sportive dans leur pays. Ils doivent aussi suivre l'actualité religieuse. Et donc, je terminerai là-dessus, je pense que c'est très important que la diplomatie globale, que ce soit la globalité du réseau du